Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis heureux de vous accueillir ce soir au nom de la BULAC pour cette quatrième soirée de l'action culturelle. Nous abordons ce soir le cycle « Prendre la parole » avec un film qui va être, vous le verrez, parfaitement emblématique de cette thématique. Nous organisons cette soirée, et c'est un grand honneur pour nous, avec l'association Afrique sur Bièvre, association qui organise le cinéma Ciné-Regard Africain, qui ouvre dans quelques jours, le 20 novembre. Je vais laisser la présidente de cette association présenter l'association et le festival. Ensuite, je laisserai Monsieur Amarger nous présenter le film de ce soir, pour lequel nous avons la fierté d'accueillir le réalisateur, Monsieur Alassane Diago, qui est avec nous. Et nous suivrons la projection d'un débat. Je précise que, comme toutes les soirées de l'action culturelle de la BULAC, le débat sera enregistré, ce qui nous permettra de le donner en téléchargement et en écoute sur notre site web. Pour toutes les personnes qui ne sont pas là ce soir, ils pourront profiter de la présence de Monsieur Alassane Diago avec nous, de Monsieur Amarger qui animera le débat aussi avec nous. Et je laisse les participants de cette soirée présenter le film. Bonne soirée à tous.
Merci. Bonjour à vous tous et toutes, et merci d'être présents. Donc, Afrique sur Bièvre. Afrique sur Bièvre, c'est une association créée en 2007 qui s'est donnée pour objet de promouvoir le cinéma de réalisateurs africains, parce que c'est un cinéma riche mais fort peu diffusé et fort peu distribué. Et notre objectif, évidemment, est de permettre à ce cinéma d'avoir une visibilité pour qu'il puisse contribuer à des échanges, différents points de vue, et que le point de vue des Africains sur eux-mêmes et sur le monde puisse avoir une meilleure visibilité. Alors nous organisons le gros morceau, je dirais, c'est effectivement un festival annuel que nous organisons depuis 2007. C'est donc notre 9e édition là en novembre prochain, qui est dans le cadre accroché à la semaine de solidarité internationale, parce que nous faisons autour de ce festival des activités en direction de différents publics, dont les scolaires. Nous faisons des séances toute la semaine avant le festival vis-à-vis des scolaires, des séances spécifiques avec des structures telles que des antennes de quartier, centres socioculturels, etc. Voilà, donc vous avez compris que nous avions un objectif de travail de terrain pour que les échanges culturels puissent s'organiser avec le public le plus large possible. Donc nous sommes évidemment très très fiers d'être dans ce partenariat proposé avec la BULAC, parce que c'est pour nous une très belle opportunité de présenter un film que nous avons déjà eu l'occasion de présenter dans un de nos festivals en 2013, et Alassane Diago était déjà venu animer le débat, et c'était évidemment un très grand moment pour nous. Donc voilà, s'il y a d'autres questions sur Afrique sur Bièvre, on pourra y répondre après. Je ne vais pas encombrer plus. Plus de son, si. Donc je vais passer la parole à Monsieur Amarger, avec qui nous avons l'habitude de travailler. Merci Monsieur Amarger d'avoir encore répondu présent à notre demande d'animation d'une de nos soirées. Monsieur Amarger, journaliste, spécialiste du cinéma africain, et qui va pouvoir introduire ce film qui, disait Monsieur Page, est tout à fait emblématique thématique d'aujourd'hui. Merci Monsieur Amarger, merci Monsieur. Je souhaite un excellent moment de cinéma.
Il marche par moment ce micro. Il marche par moment. Bonjour à tous, moi je suis ravi d'accompagner Alassane Diago et son travail, et je voudrais vous dire que ce film se situe bien dans la dynamique et dans la thématique de cette question de prendre la parole. C'est une question qui, sans refaire toute l'histoire des cinématographies africaines, est très importante pour les gens qui ont commencé à faire du cinéma en Afrique. L'Afrique a été un continent colonisé, déstructuré de par sa culture, et évidemment, quand il y a eu les indépendances, petit à petit, les cinéastes ont repris les outils en main, les outils du cinéma notamment, et ont cherché justement à prendre la parole. Alors, cette prise de parole, elle ne se fait pas partout de la même manière, parce que les cultures africaines sont très différentes. Je voudrais juste me concentrer sur celle de l'Afrique de l'Ouest, d'où est issu Alassane Diago, puisqu'il est sénégalais. Et au Sénégal, après les indépendances, en 1960, on voit apparaître des gens très combatifs qui prennent vraiment le cinéma pour prendre la parole. C'est le cas de Sembène Ousmane, c'est le cas aussi des premiers films de Djibril Diop Mambéty. C'est le cas de tous ces cinéastes qui prennent vraiment le cinéma en ayant un discours. Et ce discours est porté par leurs images aussi. Alors Alassane Diago s'inscrit un peu dans cette filiation. C'est aussi pas un hasard si au Sénégal, la première femme réalisatrice africaine, qui est Safi Faye, écrit un film où la voix de la narratrice est très importante, c'est L'être paysanne, en 1974. Et puis il y a toute une tradition de gens comme ça qui ont continué à faire des documentaires et à continuer à prendre la parole par le cinéma. Et je pense notamment à quelqu'un qui a été peut-être une sorte de parrainage pour Alassane, c'est Samba Félix Diaye, qui a été l'un des premiers à se consacrer quasiment exclusivement au documentaire, et avec cette idée qu'il fallait prendre la parole. Et un des derniers films qu'il a fait en 2004, qui s'appelait Lettre à Senghor, est aussi une prise de parole et un discours qui est adressé directement à Senghor. Alors, cette filiation, elle nous amène aujourd'hui dans un village du Fouta, elle nous amène aussi à rencontrer Alassane Diago. Et Alassane, après tous ces gens qui ont défriché la voie du cinéma, comment vous avez eu, vous, juste avant qu'on voit le film, envie de planter votre caméra au milieu justement de ces discours qu'on va voir dans le film?
Je vous remercie Michel, je vous remercie d'être venu pour voir mon film. Je remercie l'association L'Afrique sur Brièvre et la BULIAC de m'avoir invité ce soir. Comme Michel l'a dit, ce film s'inscrit dans ce discours-là, prendre la parole. Prendre la parole en Afrique, la parole a une fonction sociale très forte. Donc, Moussa Touré disait un jour sur TV5 Monde que le pouvoir a pour des gens qui ont la parole. Donc, moi, ce que j'essaie de faire en tant que jeune de l'Afrique, jeune du Sénégal, c'est de conscientiser un peu les populations. Donc, c'est de porter la voix, de parler de ce qui se passe, de ce que ces femmes-là ou bien de ces populations-là endurent. Voilà, donc... La parole est très importante, mais je pense qu'on va en parler dans le débat. Ce sera beaucoup plus intéressant. Donc, pour le moment, je vais essayer de vous laisser regarder le film en vous souhaitant un très bon voyage. Je vous remercie.
Voilà. J'espère que vous nous entendez et vous avez apprécié le voyage multiple qui nous est offert. Le film Alassane fait écho à cette d'autres films, et c'est un peu le hors-cadre de l'autre film, le premier film, Les larmes de l'immigration, qui se concentrait sur la mère et le rapport à ce père parti. À partir de là, comment est venue l'envie de s'intéresser à ce qui était et ce qu'était la vie et l'action de ces femmes?
Je vous remercie beaucoup. C'est vrai, ce film-là, c'est le prolongement logique du premier film, Les larmes de l'immigration. Donc, un film qui traite de l'immigration du point de vue de ceux qui sont partis, de ceux qui sont restés, excusez-moi, où je parle de ma mère et de moi, donc de ma sœur, qui vivent dans l'attente de mon père parti à l'immigration il y a aujourd'hui 30 ans. Donc, après 2 ans d'absence de mon village, je retourne avec ma caméra pour essayer de comprendre pourquoi cette vie dans l'attente. Voilà, donc, et cette vie dans l'attente, c'est né d'un constat au début. Donc, il y a eu un constat. Je viens de cette zone-là où l'immigration, où beaucoup d'hommes sont partis, où les femmes restent seules pendant des années parfois. où les hommes qui sont partis restent 10 ans, 20 ans sans revenir dans leur pays d'origine. Et la solitude de ces femmes-là m'a beaucoup marqué, d'autant plus que je vivais déjà avec une maman donc, qui attendait son mari parti à l'immigration. Donc, la vie de ces femmes-là m'avait beaucoup troublé. Et quand j'ai fini ma formation audiovisuelle au Médiacentre de Dakar, je me suis dit, là, c'est un sujet qu'il faut traiter. Donc, il faut parler de l'immigration. Donc, il faut traiter l'immigration, mais du point de vue de ceux qui sont restés. Donc, ces femmes-là constituent le corps du film « Les larmes de l'immigration ». Et voilà, j'ai compris pourquoi cette vie dans l'attente. Donc, c'est un choix difficile, en fait, qu'a fait ma mère dans les larmes de l'immigration. Elle a préféré de rester attendre parce que, voilà, c'est de l'amour. Voilà, donc, elle a vécu des moments heureux avec mon père. Donc, et quand mon père était là, donc, mon père l'aimait tendrement. Et mon père avait fait beaucoup pour elle. Donc, en pensant à toutes ces belles choses-là, elle s'est dit à un moment donné que j'ai aucune raison de quitter cette maison-là. Donc, pourquoi quitter cette maison-là si cet homme m'a beaucoup apporté? Donc, voilà, elle a fait un choix donc, de rester. Donc, elle a même dit dans le film, si elle aurait à quitter cette maison, ce serait pour aller dans sa tombe. Donc ça, voilà, en ayant l'âge de raison, j'ai compris que c'était vraiment un amour profond, donc pour l'homme qui était parti et qui est mon père. Voilà, donc il y a par contre d'autres femmes, voilà, qui vivent seules, mais qui n'ont pas le choix de refaire leur vie, parce qu'elles ont peur de cette société qui les encercle. Donc cette société où les valeurs archaïques sont très présentes et très fortes, où l'homme est celui est considéré comme étant le plus fort, celui qui est appelé à partir à l'aventure, donc à décider de tout. Donc cette catégorie de femmes-là, donc, elles sont obligées de rester et d'attendre que le mari revienne. Parce que même si ces femmes-là divorçaient un jour, elles ne trouveraient pas un mari dans leur milieu social. Il n'y aura personne qui voudra d'elles. Ouais. Donc c'est pourquoi elles sont obligées de rester, attendre, jusqu'à qu'un jour elles entendent que leur mari est décédé pour faire le deuil. Et c'est des femmes aussi qui jamais ne partent à la recherche de l'homme qui a disparu. Ouais. Donc d'où le sens voilà, de ce premier film-là, Les larmes de l'immigration. Donc après avoir fait ce film-là, je me suis dit, voilà, donc on ne peut pas en rester là. Donc il faut proposer un combat. Et c'est là qu'est née, ce n'est pas là qu'est née l'idée du film La vie n'est pas immobile, mais c'est un jour... on m'a proposé un film de commande. Donc, Les larmes de l'immigration est sorti. Il a fait un pôle autour des grands pays. Donc, j'ai eu des échos favorables quand même. Voilà, une association française m'a proposé de faire un film sur les activités des femmes africaines. Donc, des femmes qui sont dans les milieux ruraux, voilà, qui ont des initiatives, qui ont des projets. Et voilà, on m'a proposé ce projet-là. Et voilà, donc, je me suis dit que c'est une idée intéressante. Donc, d'autant plus que j'ai des femmes qui sont dans mon village, qui sont organisées, très bien organisées, qui ont déjà un jardin maraîcher où chaque femme a une petite parcelle où elle cultive et gagne bien sa, et gagne, disons, moyennement sa vie. Je me suis dit que ce serait une opportunité. Voilà, donc j'ai décidé de partir en repérage, donc pour essayer de voir si je peux trouver, donc, disons, corriger un peu le sujet, de rencontrer les personnages, essayer de rencontrer des personnages. Voilà, je suis arrivé dans mon village et voilà, j'ai rencontré la présidente du groupement féminin. On a longuement discuté. Elle m'a parlé de cette fameuse coupure du robinet, donc vous avez vu dans le film. Voilà, le robinet a été coupé par les hommes. Donc ça m'avait beaucoup bouleversé, révolté. Je me suis dit, j'ai essayé de comprendre quelles sont les raisons pourquoi les hommes ont décidé de couper votre coupure, ont décidé de couper l'eau du robinet. Elles m'ont expliqué. Voilà, je me suis dit non, qu'il y avait là un film à creuser davantage. Donc il faut pas. Donc je me suis dit qu'il fallait que je cherche quelque chose. Je me suis dit que s'arrêter tout simplement sur les activités des femmes qui ont un jardin maraîcher ou bien des femmes actives, ce serait un peu quelques clichés qu'on a l'habitude de voir. Je me suis dit que non, là, il fallait creuser un peu ce sillon-là, voilà, peut-être transformer cette doléance-là en cinéma. Voilà. Et je me suis dit que ce serait peut-être une occasion de présenter leur doléance au conseil que vous avez vu. C'est un conseil bimensuel, donc tous les deux mois, les hommes se réunissent, mais c'est un conseil où il n'y a pas de femmes. D'habitude, ce conseil-là, c'est un conseil exclusivement destiné aux hommes, aux chefs notables du village, aux chefs du village. Donc, j'ai proposé que ce conseil-là soit spécial, qu'il y ait une présence de femmes. Donc, je suis parti voir les vieux du village, je leur ai expliqué mon projet, que je tenais à ce qu'ils découvrent mon film, Les Larmes de l'immigration. Et je voudrais aussi qu'on parle des méfaits de l'immigration, vu que c'est un drame dans cette communauté-là. Donc, les hommes étaient tous d'accord, donc qu'à l'occasion de ce conseil bimensuel, qu'on en parle. Et je leur ai expliqué aussi que ce serait bien, puisque les femmes sont les plus concernées par l'immigration, vu que ce sont les hommes qui partent et que les femmes sont abandonnées à elles-mêmes. Donc, ce serait bien qu'elles soient là, qu'elles donnent leur point de vue, qu'elles proposent des initiatives. Parce que moi, je considère qu'elles ont aussi une part de responsabilité dans ce débat-là. Donc, ils étaient tous d'accord. Voilà, donc en amont, il y a un travail qui a été fait, c'est vrai. Donc j'ai un peu coaché les femmes, on va dire. J'ai compris leur position, mais elles avaient peur d'aller affronter les hommes. Donc on a préparé. Il y a eu 2 à 3 réunions, on faisait vraiment le pitch. Quoi. Ouais. Donc j'étais là, je les accompagnais, on travaillait un peu sur le ton. Voilà, les mots aussi. Un peu vexant qu'il fallait éviter, quel discours tenir. On avait vraiment préparé ce procès-là. Donc, ce conseil-là, on avait vraiment préparé ça. Mais bon, arrivé au conseil, mais vous l'avez certainement remarqué, vous tous, arrivé au conseil, j'ai remarqué que ces femmes-là avaient peur de prendre la parole. Elles avaient peur au début. Donc, elles étaient là. Donc, vous avez tous remarqué qu'au début, c'était les hommes qui parlaient, qui monopolisait un peu la parole. Il a fallu que je dise à un moment donné, écoutez, bon, pourtant, l'immigration, vous êtes plus concernés, vous, les femmes, par l'immigration. Pourquoi vous êtes là, assises, à écouter, à ne pas parler? Et il a fallu, qu'il y ait cette réplique-là de ma part, que Oulay, la présidente du groupement féminin, ait décidé de parler. Il a fallu ce signal-là. Donc, peut-être ce signe d'encouragement-là, pour qu'elle se sente un peu emportée. Et elle a décidé de ressortir tout ce qui était en elle. Voilà. Donc, c'était ça le combat, en fait, que je voulais après les larmes de l'immigration. Je me disais qu'il ne fallait pas en rester là. Certes, l'immigration fait verser des larmes. Elle a versé des larmes, elle continue de verser des larmes. Mais à un moment donné, il faut... qu'il y ait une rencontre, qu'on en parle, parce que chacun a sa part de vérité pour préparer un peu l'avenir. D'où le sens de ce conseil-là.
Mais ce qui est étonnant, c'est que les hommes aient accepté. Je pense que ça ne s'est pas fait facilement. Ils ne devaient pas être tous d'accord entre eux pour accepter que vous soyez là, qu'il y ait ce conseil extraordinaire avec des femmes. Ouais. C'est très transgressif.
C'est vrai. Parce que, en fait, beaucoup d'hommes ont désisté. Au départ, parce qu'en fait, la réunion a été faite au niveau de la mosquée. Mm. Donc, c'est une mosquée qui réunit environ plus de 100 personnes. Au départ, voilà, j'ai parlé de ce conseil-là, de ma proposition devant ces messieurs-là. Donc, beaucoup étaient d'accord, d'autres ont hésité. Et j'ai entendu aussi que le jour du conseil, il y avait des vieux, donc ils menaient un peu une campagne. Mm. Donc, il ne faut pas aller à ce conseil. Hein? En fait, ils pressentaient quelque chose, en fait.
Ouais.
Du coup, ils ont désisté, quoi. Beaucoup d'hommes ne sont pas venus. D'où, vous voyez, ils ne sont pas nombreux. Les hommes qui sont là ne sont pas nombreux. Donc,
ouais. Ça veut dire que ce sont les hommes les plus ouverts, finalement, qui ont accepté de poser
et
les
qui
questions.
Ouais. Je crois aussi... parce que ces hommes qui sont là, ils ont tous des responsabilités dans le village. Ouais. Donc, il y a le chef du village, l'imam de la mosquée, il y a des chefs vraiment notables. Donc, c'est des gens, vraiment, des personnes respectables au niveau du village. Peut-être aussi qui craignaient un peu l'image, craignaient un peu leur image. Ils savaient que la caméra allait être là, donc qu'ils ne soient pas vus. Et voilà, devant la caméra, ça aurait été un peu... Ça aurait eu une influence négative sur leur réputation. Donc, du coup, ils étaient un peu obligés de venir, faire un peu la figuration.
Ouais.
Sauf qu'à un moment donné, on voit que certains hommes ne parlaient pas. Dans le film, certains hommes ne parlent pas. Donc, il y a deux ou trois messieurs, je crois, qui parlaient. Et à un moment donné, j'étais obligé d'arrêter la caméra. Quand il y a eu un peu quelques confusions entre les hommes et les femmes... Et certains messieurs m'ont demandé d'arrêter la caméra. Mmh. Donc, au début, moi, je voulais faire deux conseils, c'est-à-dire deux temps.
Ouais.
Sauf que je n'ai pas réussi à faire le deuxième conseil. Donc, le premier conseil, ils avaient envisagé tout simplement de parler de l'immigration. Et le deuxième conseil, en deuxième temps, voilà, de parler de la coupure du robinet. Mmh. Mais je savais aussi, c'est possible. En fait, j'avais des doutes. Je me suis dit, bon là, ils ont accepté de te parler aujourd'hui, et ça sera possible demain.
Oui.
Donc, du coup, tout ce que j'avais préparé en termes de questions et tout, j'ai réussi quand même à aborder pendant le premier conseil. Mm. Donc, ce qui m'a permis quand même, d'avoir pas mal d'informations, de poser le vrai débat. Voilà.
Mais en fait, c'est vraiment un film d'intervention parce que quand on dit prendre la parole, c'est quasiment vous qui l'a provoqué et qui allez la chercher, cette parole, et même avec la caméra. Il y avait une seule caméra ?
Au conseil ?
Oui.
Non, il y avait deux.
Il y avait deux.
Il y avait deux. En fait, j'avais une assistante qui me faisait des gros plans.
Des plans de coupe.
Des plans de coupe. Il y avait moi aussi qui tenait la grande caméra.
Parce que là aussi, la présence d'une caméra, c'est inhabituel dans un...
Ouais.
Dans un espace comme ça et dans une circonstance comme ça.
Et c'est vrai. D'habitude, en fait, moi, j'ai pas le droit d'être là. En tant que jeune, les jeunes de ma génération n'ont pas ce statut-là. Donc, peut-être aussi, ils savent ce que je fais comme travail... ils savent aussi que mes films ont voyagé. Du coup, ils ont commencé à me respecter un peu. Voilà, donc quand j'ai proposé de la tenue de ce conseil-là, ils ont accepté. Mais c'est surtout par rapport au regard que les gens de l'extérieur ont de moi. C'est surtout par rapport à ça qu'ils ont accepté ma présence et ma proposition de la tenue de ce conseil.
Donc la notoriété, la reconnaissance extérieure, ça aide
beaucoup.
En l'occurrence
même, même dans nos pays.
Ouais.
Quand il y a de la notoriété à l'extérieur, tu es plus écouté, tu deviens important. Et ça a beaucoup joué dans ce film-là.
Oui. Attendez, on va vous passer le micro parce que c'est enregistré le débat, comme ça, il pourra y avoir des traces de la conversation.
Oui, donc l'acceptation de la caméra, c'était une chose, mais ensuite, à quel moment est-ce que vous êtes revenu projeter votre film dans votre village et quelles ont été à ce moment-là les réactions ?
Pour vous dire, Le film n'a jamais été projeté dans mon village. Jusqu'au moment où je vous parle, le film n'a pas été projeté dans mon village. Alors, les femmes, voilà, chacune a eu un DVD. J'ai fait des DVD que j'ai distribués. Voilà, les ordinateurs, parce que chaque famille a un ordinateur aujourd'hui. Donc, c'est grâce à un ordinateur qu'ils ont visionné le film « La vie n'est pas immobile ». Ou bien, le film aussi est passé sur Canal France International qui redistribue aux chaînes africaines. Donc, il est passé sur la chaîne nationale sénégalaise plusieurs fois. Donc, ils ont vu le film. Et pour éviter ces tensions-là, moi, j'ai préféré ne pas organiser une projection au village. Ça aurait mal tourné. Je l'ai essayé ici, avec les immigrés originaires de mon village, mais c'était très mal passé. Ils n'ont pas du tout apprécié le film. Et pourtant, moi, je considérais qu'ils étaient plus ouverts, mais comme on en a parlé, c'était déjà un peu compliqué, complexe. Donc, qui sont, voilà, enracinés, très, très même enracinés dans leurs valeurs ancestrales. Voilà, du coup, ils ont très mal pris le film. Ils l'ont vécu de la même manière que les hommes qui sont restés au village. C'est-à-dire que j'étais là pour créer un conflit ou bien pour déstabiliser le pouvoir des hommes sur les femmes. Les hommes ont perçu ce film-là de cette façon-là.
Et même s'il avait été projeté avec les hommes et les femmes de la communauté, ça aurait posé le même problème.
Ça, c'est plus compliqué.
Ça aurait été encore plus compliqué. Ouais. Parce qu'ils ont une image à défendre, même devant les femmes. Donc, oui.
Merci. Je suis aussi de la zone. J'ai imaginé les difficultés auxquelles vous devez être confronté pour réaliser ce film-là. D'ailleurs, même, ça m'a un peu surpris parce que moi, je me disais, est-ce qu'on est dans la fiction ou dans la réalité? Bon, je me suis rendu compte qu'il y a les deux, je pense, parce que vous avez parlé de briefer les femmes. Mais quand j'ai entendu votre voix, j'ai été un peu surpris. Parce que, surtout le deuxième conseil là, parce que vous avez quand même utilisé un ton, disons même, très 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 direct, et surtout qu'il y a des autorités là-bas, et je sais comment ils perçoivent un jeune qui leur parle de cette façon-là. J'imagine que, je sais que s'ils n'étaient pas préparés, je pense que la séance s'arrêterait là. Surtout à partir du moment où vous avez dit que ce sont les femmes qui vous nourrissent à travers ce jardin-là, je pense que quand même c'est une phrase choc et qui peut faire très très mal dans ce milieu que je connais quand même assez bien. Bon, par rapport à votre point de vue, je constate qu'un peu il y a un éveil, une prise de conscience des femmes portée par la responsable principale. Est-ce que c'est vraiment une réalité qui est en train de naître là-bas ou il s'agit simplement d'un programme que vous-même vous avez préparé et que vous avez fait porter à cette femme-là? Parce que j'ai constaté quand même que son discours est assez progressiste, assez bien structuré. C'est une femme qui est déterminée et qui a derrière elle aussi des femmes qui l'écoutent et qui sait exactement où elle veut aller. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui se passe là-bas ou c'est vous-même qui avez préparé cette femme-là à tenir ce discours-là? Merci. Est-ce que vous avez fait la même chose aussi par rapport aux hommes? Est-ce que vous avez vraiment préparé les hommes? Est-ce que vous êtes concerté avec les hommes comme vous l'avez fait avec les femmes?
Si, okay. Je comprends vos questions. Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a une grande évolution au sein des femmes. dans mon village, hein, je parle de mon village, c'est une communauté de 2000 habitants. Donc comparé à la région de Matam, qui c'est pas quand même énorme. Mais au niveau de mon village, il y a une nette évolution des mentalités. Cette femme, elle est progressiste. Comme vous le voyez au début, c'est une femme qui a un passé douloureux, c'est-à-dire qui supporte avec elle un mari malade. Donc, certains ont dit voilà, que son mari a été marabouté. Elle parle de la sorcellerie. Donc, c'est un monsieur qui est malade depuis plus de 16 ans. Aujourd'hui, ça doit faire 20 ans, je pense, parce que j'ai tourné le film en 2011. Donc, c'est 5 ans plus 16 ans. Donc, 21 ans que son mari est malade, elle la supporte. Voilà. Au départ, Ouleye, c'est-à-dire la présidente du groupement féminin, au départ, elle était chez elle. Elle n'était pas du tout militante. Mais elle trouvait ça injuste. Que son mari, qui tenait un peu le foyer, donc qui prenait en charge la famille, l'éducation des enfants, que son mari-là, qui aimait beaucoup sa famille, tombe malade. Et elle, qu'elle ne soit pas capable de prendre le relais. Elle a trouvé ça injuste. Et peut-être c'est l'électrochoc. Et c'est à ce moment-là, en fait, voilà, qu'elle s'est dit, non, je ne peux pas rester les bras croisés, il va falloir que je fasse quelque chose. C'est à ce moment-là qu'elle a rejoint, parce que le mouvement féminin existait déjà. Mais il y avait une autre présidente. Mais voilà, avant, elle n'était pas du tout active, comme vous la voyez ici dans le film. Mais c'est à cause de cette déstabilisation, c'est à cause de toute cette souffrance endurie pendant toutes ces années, qu'elle a décidé à un moment donné de changer sa situation. Changer sa situation, c'est trouver du travail, prendre en charge ses enfants, leur éducation, essayer de soigner tant qu'il peut aussi la maladie de son mari, même si c'est une maladie qui est inguérissable. Mais bon, on va dire qu'au fur et à mesure, comme vous la voyez dans ce film-là, au fur et à mesure, cette femme-là, donc, qui a eu un passé douloureux, s'est complètement transformée. J'en suis pas, disons, ce n'est pas grâce à moi que cette femme-là a changé, hein. Même si j'ai un posé là-dessus, parce que son discours, ça vient d'elle. Au conseil, oui, on avait préparé ça. Ce qu'elle allait dire au conseil, on avait préparé ça. Mais tout venait d'elle. Moi, j'étais juste là pour rectifier un peu, pour éviter que ce conseil tourne en cauchemar. Donc, il ne fallait pas utiliser certains mots violents. Je leur conseillais parfois de dire certaines choses, de les nommer. Ouais. Mais seulement pour le conseil, hein, pour le conseil des hommes et des femmes. Mais pour le reste, j'étais juste là pour essayer un peu de rendre maïotique notre conversation. Voilà, donc elle se confiait à moi, je l'aidais aussi à trouver les mots. Voilà, je la rassurais un peu. Voilà, elle avait confiance en moi, elle se livrait. Elle me racontait tout ce qu'elle vivait. Donc j'étais juste là pour accompagner ce moment-là.
Et pour prolonger la question, est-ce qu'il y a une mise en réseau de ces communautés de femmes avec d'autres communautés ?
Avec d'autres communautés ? Je ne sais pas trop.
Qui feraient des petites entreprises
Tout ce que, dans le même village ou bien...
Plus largement.
C'est sûr, dans chaque village, il y a un mouvement féminin.
Mais est-ce qu'ils communiquent avec celui du village d'à côté ?
Elles se concertent. De quelle manière, je ne sais pas. Mais je sais quand même que... À Niam, c'est la communauté d'où je viens.
Ouais.
C'est une communauté de 15 000 habitants. Déjà. Dans chaque village, il y a un groupement féminin. Mais elles se concertent. Donc, toutes les présidentes des groupements féminins ont une réunion, je ne sais pas, tous les six trimestres, quelque chose comme ça. elles se rencontrent, elles échangent sur leurs idées. Elles ont des projets en commun, ça c'est ce qui est certain, c'est certain.
Ben, ça aide à structurer le discours et les projets, justement. Comme...
Et les femmes de cette communauté, je crois que toutes les femmes ont vu le film, hein, La vie n'est pas immobile. Toutes les femmes de cette zone-là ont vu le film, ça c'est certain.
Elles ont dû se le faire passer. Elles ont dû se le faire passer.
Ouais, c'est sûr. On va dire ça, ouais.
Oui. Attendez, le micro, pour qu'on soit enregistré.
Si j'ai bien compris, donc vous n'êtes pas retourné dans ce village depuis la sortie du film. C'est ce que vous avez dit.
Exactement.
Parce que vous n'y êtes pas le bienvenu, enfin surtout par rapport aux hommes. Mais néanmoins, je suppose que vous avez des nouvelles. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Comment a évolué le village? Les relations hommes-femmes, etc. Vous pouvez nous en dire un mot ou pas?
C'est vrai, hein, depuis que j'ai fait ce film-là, c'est en 2011. J'ai pas remis mon pied dans mon village. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, quoi. Il y a des raisons qui sont personnelles, peut-être. Je vais les dire pour la première fois. Mais c'est des raisons aussi, voilà, qui sont nées de l'injustice ou bien des ras de bol qui m'animent aujourd'hui, qui ne cessent de m'animer. En fait, il y a ce film-là et l'autre, comme je suis un briseur de tabous, comment on va dire? Donc, je suis amoureux d'une jeune femme qui est mariée. Et vous m'avez entendu? dans cette société là, c'est inadmissible, quoi. C'est impossible, c'est impensable. Donc voilà, c'est pourquoi je dis je suis un peu c'est un peu compliqué.
Ça,
donc je suis très mal vu dans mon village, quoi. Je suis très mal vu, quoi, parce que ça ne se fait pas.
Et ça, c'est la raison personnelle. Mais
là, c'est la raison personnelle.
Les gens du village le savent, ça.
Oui, ça, c'est une histoire qui est
d'accord,
connue aussi.
Ça, c'est connu.
Ouais, donc, c'est une histoire qui se rajoute à l'autre. Ce qui fait que ça complique un peu ma vie, quoi, d'une manière générale. Mais je vois quand même ma famille. Je les invite régulièrement à Dakar. C'est mes nièces aussi qui viennent chaque année en vacances chez moi, là où j'habite. Mais au village, c'est un grand tabou avec un grand T.
Mais ça, c'est à cause du film aussi.
Ouais, on va dire.
Ouais, qui a été mal perçu. Ouais, d'accord. Même s'il circule et qu'il défend la cause des femmes, il a été mal perçu.
Très mal.
Ouais.
Très mal perçu.
Mais par les hommes plutôt que par les femmes.
Non, les femmes, elles m'adorent. Hein,
ah, c'est... d'accord.
Moi,
ah
non, bon, moi, d'accord. Je suis... ouais, d'accord. Avec les femmes, j'ai pas de problème.
Ah non, ça, on a bien compris. D'accord.
Ouais.
Oui.
Oui, sinon, la deuxième partie de la question portait sur les nouvelles du village.
Ah, oui. Que se passe-t-il? Oui, c'est vrai, exact.
Tout ce que je sais, c'est que la coupure de l'eau du robinet a été levée, donc les femmes ont repris leurs activités, tout se passe bien. Ça, ce sont les dernières nouvelles que j'ai obtenues.
Voilà. Elles continuent à cultiver,
Elles continuent à cultiver, elles continuent à se regrouper,
ouais.
Donc à parler de leurs préoccupations.
Ouais.
Voilà, donc il y a des combats, parce qu'il s'agit énorme, il y a beaucoup de combats à mener. Donc ça, elles en sont conscientes, hein. Donc, mais c'est petit à petit, comme on dit, que l'oiseau va faire son nid. Donc avec elles, ça va se... voilà, c'est pareil. Elles ont mené un premier combat, comme pour moi, c'est... c'est une victoire qu'elles ont obtenue qui va s'inscrire dans leur histoire de vie de femme. C'est un combat qui va s'inscrire dans leur histoire. D'avoir gagné ce conseil-là, d'avoir présenté leur doléance, parce que c'était pas évident. C'était pas évident.
Justement, c'est prendre la parole, mais il faut être écouté aussi. C'est, donc,
ouais.
Oui.
Oui, à un moment, donc, responsable du mouvement féminin dit ma génération en quelque sorte n'a pas été éduquée, ouais. Alors que bon, vous avez montré à ce moment-là l'image d'une jeune fille qui est en train de faire ses devoirs, alors que la jeune génération elle, a reçu une éducation. Et pourtant, on a quand même l'impression qu'il n'y a qu'elle qui parle. C'est-à-dire que dans ce groupe de femmes, elle est le féminin leader. mais que, est-ce que vraiment, derrière elle, il y a des jeunes qui vont continuer à prendre la parole, ouais. Est-ce que vous l'avez senti comme
ça? Si, non, il y a des choses qui marchent. C'est vraiment en marche, quoi. Aujourd'hui, je vais dire que toutes les filles sont scolarisées à l'école. Avant, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, les filles sont à l'école primaire, elles vont au collège, au lycée. Voilà, elles refusent de se marier. Il y a certaines qui réussissent aujourd'hui à dire non. Non au mari imposé. C'est en marche, quoi. C'est en marche. Il y en a deux, moi je connais deux qui ont fait des études universitaires, donc qui est en lettres modernes et l'autre qui est aussi qui fait lettres modernes. Donc ça commence vraiment à évoluer. C'est en marche. Mais il va falloir encore du temps parce qu'elles en ont besoin, je pense. Ouais. Pour continuer de prendre les devants, elles ont besoin de plus de temps. Et ça se passe, comme on l'a dit, par la parole. Donc, il faut oser la prendre. Il faut oser la prendre, il faut donner son opinion, il faut parler de son ressenti. Elles ont arrivé à le faire ici, avec la caméra, à ma présence. Mais bon, après ça, il va falloir qu'elles continuent à le faire. Ouais. Sans qu'elle ne soit portée par quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, vraiment, c'est elles voilà, qui vont porter leur avenir entre leurs mains. Donc, ouais. Ça, c'est le gros combat à faire. Mais je suis convaincu que, voilà, que Oulay, la présidente, ça, elle est vraiment imprégnée. Ouais. Elle est à fond, elle a envie vraiment de changer les choses. Et ça fait 10 ans qu'elle préside ce groupement féminin. C'est grâce à elle aussi que ce jardin-là existe.
Une question, d'abord une petite question précise sur le fait qu'avant le conseil, il y a un monsieur qui présente les participants. Est-ce que ça se fait toujours comme ça ou c'est pour le film en fait?
C'est pour le film, comme vous l'avez dit.
D'accord.
En fait, ça a existé. Ce monsieur-là, notable. Quand ils étaient jeunes, ou bien de leur époque, je vais dire, à cette époque ne leur appartient plus, de leur époque, ils avaient l'habitude de vivre ces cérémonies-là, d'avoir cet accueil-là. À un moment donné, je me suis dit, ce serait, en fait, il fallait les mettre à l'aise, ces vieux-là, pour les parler. Il fallait remonter au temps, donc parler de leur... il faut qu'on chante leur louange, comme le Grieux l'a fait. Pour les mettre à l'aise avant de venir au fait, il fallait passer par là. C'est une sorte de présentation, voilà, il fallait chanter leur louange, voilà, comme à l'époque, pour ressortir un peu leur fierté, voilà, leur personnalité, voilà, et leurs origines et tout, avant de poser le débat. Parce qu'à l'époque, ça se faisait comme ça.
Sinon, dans la vie, les hommes, ils mettent jamais les pieds dans le jardin et ils s'occupent des bêtes. Qu'est-ce qu'ils font, en fait?
Les hommes,
ouais.
Comme vous le voyez dans le film, hein, les hommes, en général, c'est des boss. Ils sont tranquillement chez eux en attendant que le bol de midi arrive pour manger, en attendant qu'on leur serre voilà, un verre de thé après le repas. À part ça... La seule activité, je ne sais même pas si on peut appeler ça activité, c'est voilà, après l'appel à la prière des miosans. Donc, ils vont à la prière. Comme vous l'entendez, hein, la ilaha illallah, la ilaha illallah, c'est tout ce qu'ils savent faire. Ouais. Et ils se réfugient dans l'islam pour expliquer leur pouvoir en général. En y pensant un peu, ouais. À chaque fois que, voilà, qu'ils essayent, quand ils veulent fuir en raisonnement, quand ils veulent sortir de la logique un peu, ils se disent, écoutez, c'est l'islam. C'est l'islam qui a voulu que l'homme parle à la place de la femme, que l'homme décide à la place de la femme. Ouais. Sauf que voilà, c'est tout à fait contradictoire, tu vois, avec les faits réels. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans le film? On voit que ce sont des femmes qui sont actives. Et l'islam, ce que l'islam dit, c'est l'homme qui doit travailler, qui doit prendre soin de sa femme. Mais là, c'est le contraire qui se passe. Ce sont les femmes qui prennent en charge leur mari.
Même en fait, les femmes dont les maris sont là, en fait.
Ouais.
Pas seulement les femmes dont le mari a émigré.
Non, je parle des femmes dont les maris sont là.
D'accord.
Mais ils sont à la culture quand même.
Allah? Et les hommes?
Oui, les hommes. C'est un moment de l'année où c'est eux qui doivent être au boulot normalement. Si ils doivent aller les femmes les condiments, parce que j'ai cru au dimanche.
Accompagner peut-être le troupeau parfois.
Oui.
Accompagner le troupeau, oui. Mais quand il s'agit des travaux champêtres, c'est à deux ou à trois, ou bien ce sont les enfants qui partent. Hmm? Et en général, voilà, c'est la femme qui organise tout, quoi.
C'est une conclusion ou il y a d'autres questions?
On se demandait en effet pourquoi ce genre de film et de diffusion n'était pas communiqué en tout premier lieu au foyer. Parce que justement, là, c'était intéressant de faire venir des gens qui ne viennent pas dans des lieux comme ça et pour des sujets qui les toucheraient éventuellement. Mais est-ce qu'on comprend que du coup ils seraient en colère ou ça serait partagé? C'est pas si simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Des foyers de travailleurs qui sont ici et qui sont de Sénégal, Mali et autres.
Pour les inviter à venir voir le film ou bien projeter chez eux peut-être le film. Ouais, ça pourrait être possible.
C'est à la
limite. Mais en tout cas, tout ce que je sais quand même, que la première projection que j'ai faite dans un foyer, ça c'était pas le passé, quoi. Mais c'était avec, je comprends, c'était avec les hommes de mon village. Donc c'est normal, je pense. C'est normal, voilà, qu'ils soient un peu vexés. Mais dans d'autres foyers, peut-être le message passerait très bien. Quoi.
Oui, ça dépend des communautés qui
sont dans
les
foyers. C'est des niveaux différents, oui. C'est des niveaux de vie différents parfois. Hein, mmh.
Puis si c'était des Maliens, ils diraient oui, c'est des hommes sénégalais. Nous, ça ne se passe pas comme ça. Donc,
exactement.
Les Camerounais, pareil. Donc c'est, voilà, ça dépend aussi.
Ça dépend, oui.
Mais c'est peut-être...
Ça dépend des sociétés. Ouais. Il y a certaines sociétés qui sont plus ouvertes que d'autres. Mmh. Mais la société, moi, que je connais, dans laquelle... je vis, c'est une société très ancrée dans ses racines, qui est la société Paul.
C'est juste une société rurale et conservatrice quand même.
Par ouais,
il y a d'autres endroits où c'est plus ouvert au Sénégal.
Non, les Pôles, c'est... En fait, c'est une ethnie qui est présente dans 18 pays de l'Afrique. Donc, ils sont un peu partout. Et ils sont pareils. Ils sont pareils. Très conservateurs.
Ouais.
Très.
Oui, je ne veux pas répondre sur la question du foyer. Je voulais simplement, à l'occasion de cette question, expliquer la démarche que l'association a dans le cadre du festival de films africains, donc, qui va se passer à partir du 20. Et donc la semaine d'avant, c'est la semaine de solidarité. On fait des séances pour les scolaires, mais on fait aussi des séances... notamment qui concerne particulièrement le film de Alassane. Et ce sont des séances qui sont proposées, là en l'occurrence, aux antennes de quartier d'une ville. Et donc, le film On l'a donné aux animateurs, aux responsables de ces antennes de quartier. Il a été travaillé avec notamment les personnes qui suivent les ateliers sociolinguistiques, enfin, ce qu'on appelait dans le temps les groupes d'alphabétisation. Et nous allons projeter ce film et Alassane sera présent. Donc c'est vrai que dans votre question, madame, j'entends la démarche qui est de pouvoir justement partager et discuter avec les gens les plus directement concernés. Donc nous essayons à travers cette démarche-là, d'être dans ce processus. Bon, je ne sais pas du tout comment la séance va s'organiser, mais en tout cas, votre présence à la SAN, elle est pour nous précieuse pour justement tenter. Alors, ce sera plutôt des femmes qui seront là, éventuellement, puisque ce sont les femmes qui sont plutôt majoritairement dans les groupes, les ateliers sociolinguistiques. Mais dans les antennes de quartier, il n'y a pas que les ateliers, il y a aussi d'autres publics. Peut-être qu'on aura des jeunes, peut-être qu'on aura des parents d'enfants qui suivent les soutiens scolaires. Donc, bon, voilà. Voilà la démarche dans laquelle nous sommes. On n'a pas de foyer, on n'a pas de contact avec les foyers, mais vous avez raison, c'est un film qui serait extraordinairement intéressant à proposer dans un foyer, dans tous les foyers qui accueillent les personnes migrantes. En tout cas, merci de votre question.
D'autant plus que les immigrés, ce sont eux qui, disons, qui décident de tout dans leur pays d'origine.
Il y avait une autre question.
Je lui passe tout de suite le micro. Après, c'est juste une information. En regardant le générique, Alassane, j'ai vu que vous étiez le traducteur. Et la langue, j'ai eu à peine le temps de lire, c'est le poula, c'est ça?
Ouais.
C'est le peul, en fait, c'est la même chose.
C'est la langue peul. Mmh.
Oui, moi, c'est moins une question qu'une remarque. Enfin, c'en est une quand même. Je ne parle pas, enfin bon, je vois ce film pour la, je sais pas, quatrième ou cinquième fois avec toujours le même intérêt. Et alors il y a un petit détail que j'ai remarqué, c'est toujours, enfin ça, c'est toujours la tradition des griots de prendre l'étoffe qu'il a sur l'épaule et qu'il place sur le seuil à l'arrivée de chacun des membres du conseil.
C'est une question ou...
Non, là, c'est une question, oui, c'est une tradition, donc.
Ouais, oui, c'est tout à fait une tradition.
Alors, la question que je voulais poser, c'est j'étais très sensible à la façon dont le paysage, le rôle, le sable, la poussière, le soleil, apparaissait en quelque sorte pour rythmer les séquences. Et est-ce que vous pouvez nous parler du montage que vous avez fait et des intentions que vous aviez pour montrer ça? C'est à la fois un décor, mais on a l'impression aussi que c'est métaphorique en quelque sorte de la sécheresse, de la difficulté, etc. Est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît?
Oui, en fait, c'est une question de cinéma, ça. Super importante. Ouais, en fait, dans ce film, il y a ce combat de femmes. Disons l'habillage, le montage, voilà, donc c'était aussi de filmer les lieux, la nature qui les entoure, c'est tout ça. Donc vous voyez, il y a une présence, une atmosphère sonore importante dans le film. Et les lieux, tous les lieux que vous voyez, le film reflète le drame de l'immigration que vous voyez. Donc, c'est une immigration, on va dire, climatique. On en parle moins, mais ce qui a poussé les hommes à partir vers les années 70, c'est parce que cette zone-là a connu une grande famine. A connu une grande famine vers ces années-là. Et pour la première fois, les hommes ont décidé de partir. Donc voilà, pour vu que je parle de l'immigration, donc j'ai trouvé important de montrer, voilà, ces images-là qui continuent, voilà, d'inquiéter ces populations-là. D'où la présence du vent. Donc le vent est fort, il est poussiéreux. Il fait fuir les gens. Donc voilà, c'est surtout ça, voilà. Donc, pour que ça participe un peu à la vie de ces gens-là, qu'on ait un visuel au-delà de la parole, qu'on ait un visuel, voilà. Donc, vu que ça se complète, la parole et l'image.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que justement, le paysage est rude, sec, et j'ai trouvé la parole des femmes extrêmement forte et puissante, quoi, et tellement vraie. Et j'ai pensé aussi, par exemple, en 14-18, en France, les hommes sont partis au front, et les femmes sont restées et ont été à l'usine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elles ont commencé à conquérir un peu leur indépendance et à travailler. Et ça m'a fait penser un peu à ça, puisque les hommes sont partis. Elles sont face à leur réalité qui est extrêmement dure et elles se prennent en charge. Et ça m'a fait penser à ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Une jeune collégienne m'avait fait la même remarque à Angoulême.
Ah ouais.
Ouais. La même remarque.
Bah oui, parce que c'est une situation qui s'était effectivement posée en France, et les femmes ont acquis plein de droits à l'issue de ça, de droits civiques, de droits de conditions de travail. Ça a été très important.
Moi, je voudrais savoir sur cette clause qui permettrait aux femmes de divorcer si le mari ne revient pas, si c'est local, si c'est une interprétation, parce que je n'avais jamais entendu ça encore.
Si le mari ne revient pas.
Si le mari ne revient pas, est-ce que les femmes ont le droit de divorcer?
Bon, du point de vue de l'islam, hein, parce qu'en fait, c'est une partie musulmane. Oui, l'islam dit, en fait, dans ses règles, dans sa charia, que voilà, au bout de 6 mois, quand l'homme ne revient pas, la femme peut mettre un terme à son mariage. Maintenant, c'est à elle de décider si elle peut attendre l'homme parti. Là, c'est son choix, en fait. Voilà. Mais le souci, en fait, c'est la tradition qui pèse trop sur l'islam. Parfois, on a du mal à faire la distinction entre ce qui est islam et ce qui est la tradition. C'est un peu compliqué. Mais l'islam, dans sa charia, dit qu'au bout de 6 mois, la femme peut briser le mariage et refaire sa vie. Mais le seul souci, en fait, quand elle brise son mariage, elle ne pourra pas trouver un homme. Briser un mariage parce que tout simplement l'homme est parti, il n'est pas rentré, c'est très mal vu dans la société. C'est pourquoi certaines préfèrent attendre. Voilà, ils peuvent rester 10 ans. 15 ans, ma mère attend jusqu'à présent. Ça fait 30 ans qu'elle attend. Mais en fait, les causes sont diverses. Mais elle, moi, je comprends. Moi, j'ai fait ce travail-là et j'ai compris tout au long de mon film qu'il y avait la beauté de l'amour qui était là, qui faisait qu'elle attend, qu'elle continue d'attendre. Et elle en a pas marre, en fait. Voilà. Et à chaque fois, elle dit que tant que je vous vois, moi, je vois votre père. Ma mère, c'est ce qu'elle dit tout le temps. Hein. Quand je vous entends, ou bien quand je vois votre visage, c'est comme si votre père était là. Donc, tout son avenir repose sur nous. Sur nous, ses enfants. Voilà. Comme là-bas, en fait, un enfant, c'est comme un investissement. Quand on met un enfant au monde, c'est l'enfant, une fois grandi, c'est celui qui est appelé à assurer. À assurer la retraite de ses parents, en fait. Moi, je dis tout le temps ça. L'enfant, c'est celui qui va assurer la retraite des parents. Donc, il va, une fois qu'il sera grand, prendre le relais. Le relais du père, à s'occuper de la maman, à s'occuper du père. À subvenir aux besoins des parents. C'est un investissement.
Mais sinon, le cas où il n'y a aucune nouvelle, où il n'y a pas d'argent qui est envoyé, c'est quand même marginal par rapport... à la plupart des émigrés qui, je pense, donnent des nouvelles assez régulièrement et envoient.
En fait, voilà, il y a deux immigrations. Il y a une immigration qui se passe entre le sud et le nord, l'Afrique vers la France, par exemple. C'est une immigration réussie, en gros. C'est une immigration réussie où les immigrés réussissent à revenir tous les deux ans ou bien chaque année pour revoir leur famille. L'autre immigration, c'est l'immigration qui se passe au sein de l'Afrique, l'immigration sud-sud. C'est cette immigration qui cause pas mal de difficultés, où les hommes, une fois qu'ils partent et qu'ils ne réussissent pas à faire fortune de leur immigration, ils préfèrent voilà, mourir dans le milieu où ils ont immigré que de rentrer avec des poches vides. C'est, voilà, c'est là où on assiste vraiment à un grand fléau, quoi. L'immigration sud-sud, où les hommes restent pendant 50 ans, pendant 30 ans, 40 ans, sans revenir, quoi. Et moi, ce qui m'a plus... disons choqué, c'est que ces familles-là soient là en attente sans qu'il y ait initiative de partir à la recherche de l'homme. Moi, ça, c'est des questions que je me pose tout le temps. Pourquoi, à un moment donné, on est resté 5 ans, 4 ans sans de nouvelles? Pourquoi on ne part pas à sa recherche, voir au moins s'il est en vie ou il n'est pas en vie? Mais les familles restent là, optimistes, en attendant un jour les grandes retrouvailles. Voilà. Parfois, voilà, moi quand j'étais jeune, j'avais 7 ans, 8 ans, on allait tout le temps. En fait, mon village est traversé par la route nationale. Donc, à chaque fois, voilà, qu'un grand car s'arrête avec beaucoup de bagages, on se dit, voilà, on a un immigré qui est rentré, un immigré qui est rentré. Voilà. Donc, à chaque fois, quand un car s'arrête, parfois il nous arrive, voilà, d'aller accueillir un monsieur qui ne reconnaît plus rien du village, qui se sent complètement perdu. Donc, c'est quelqu'un qui a fait 20 ans, 25 ans, il arrive au village et il est perdu, il demande où se trouve la maison de tel. En général, il demande en fait aux jeunes, il demande en général le jeune, puisque les jeunes, on se connaît très bien, donc nous connaissons nos camarades et tout. Donc, en général, il demande, voilà, il nous demande son fils ou bien son neveu, qui a le même âge que nous, quoi. Voilà, pour reconnaître un peu la maison. En général, ça se passe comme ça. Ils arrivent, ils demandent où se trouve leur maison, après 20 années d'absence. Voilà, c'est... Moi, en étant jeune, j'ai vécu ça. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, il y a des monsieur qui ont immigré, qui sont restés 30 ans, 40 ans, qui ne sont pas revenus. Et... Ce qui est un peu incompréhensible, parfois que ces familles-là, ils ont le pressentiment, le sentiment que le monsieur, il vit, disons mystiquement, parce que c'est des familles aussi qui croient beaucoup à ces réalités-là. Donc, ils vont consulter chez un charlatan pour voir, est-ce que vous pouvez voir si mon mari vit ou il ne vit pas? Et parfois, on les rassure, on leur dit, si, il vit, il est en bonne santé. Donc, ils croient, puisqu'ils croient à ces réalités-là, voilà, ils les acceptent. Parfois, on leur promet, écoutez, un jour, il va revenir, ne vous inquiétez pas. Voilà, et vu qu'ils sont ancrés dans ces réalités-là, qu'ils y croient beaucoup, voilà. Donc, elles patientent, ces personnes-là patientent. Jusqu'à que, voilà, une nouvelle tombe, un jour, votre mari est mort. Ou bien, voilà, à la grande surprise de la famille, on voit revenir le monsieur en bonne santé. Et parfois, il y a une méthode aussi mystique dans les larmes de l'immigration. Mon premier film, ma mère en parle. Parce qu'en fait, il y a une méthode, il y a un système, en fait. C'est toujours dans ce... c'est toujours dans cette réalité mystique-là. En fait, il existe un système pour faire revenir l'homme qui est parti. C'est très mystique, hein? C'est pas du tout raisonnable, quoi. Mais bon, j'ai posé cette question-là à ma mère. Pourquoi t'as pas fait recours à ce système-là pour faire revenir mon père? Mais ce système-là, c'est un peu risqué. On peut le faire, mais quand on le fait, le mari peut revenir. Mais bon, il peut être malade. Ou bien il peut revenir, voilà, on le voit. Au bout de 2 semaines, il meurt. Et ma mère m'a fait savoir, ça n'a pas de sens. Si je faisais ça, ça n'aurait aucun sens. Moi, je veux qu'il revienne en bonne santé, tu vois. Je veux, voilà, qu'il reste avec moi plusieurs années, mais pas de cette façon-là. Elle m'a dit, non, je ne ferai jamais ça. Mais c'est des systèmes, voilà, des gens font recours à ces systèmes-là, qui sont très incompréhensibles, quoi. Mais il y a certaines qui les acceptent, certaines qui tentent, qui réussissent. Il y a d'autres aussi qui ne réussissent pas.
Alors on va finir avec un grand point d'interrogation. Alassane, merci en tout cas d'être venu accompagner cette projection ce soir.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, et merci à vous tous d'être restés si tard pour partager la séance avec nous. Un mot de conclusion peut-être ?
Un mot de conclusion pour vous remercier effectivement à tous. Merci aussi Michel Amargé effectivement d'avoir animé ce débat. Merci à notre public d'avoir effectivement autant participé à ce débat. Et merci à Alassane Diago. J'aurais quand même une dernière question pour Alassane. Est-ce qu'on pourra voir prochainement un nouveau film ?
Ouais. Ils sont disponibles. Hein. Les deux films sont édités en DVD. Donc oui. On peut les avoir facilement à la FANAC, sur les sites web, Rue de Commerce, Amazon. On peut trouver ça sur le web. Sinon, il est aussi disponible dans les bibliothèques, surtout le premier film, Les Larmes de l'immigration. C'est un film disponible au niveau du CNC.
Oui. Ouais. Et vous avez une nouvelle production, peut-être
Oui, je travaille sur mon prochain long métrage, en fait, je vais le tourner au mois de janvier prochain. Donc, il y a une partie, c'est toujours sur l'immigration. Hein. Moi, c'est une question qui me. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. Donc, vu que je suis un fils d'immigré, un enfant qui a été abandonné, moi, je n'ai connu que l'immigration. Donc, du coup, peut-être c'est un peu dû à ça, que je sois passionné par ce sujet-là. C'est sur l'immigration. Donc, il y aura une partie qui sera tournée au Sénégal, une partie au Gabon. Ouais. C'est sur ces messieurs-là qui sont partis. Donc. Voilà. C'est le hors-champ, disons, on va dire, le hors-champ de la vie n'est pas immobile et de l'élan de l'immigration. Là, je vais aller rencontrer ces messieurs qui vivent en Afrique centrale, qui sont restés 50 ans, 30 ans, sans retourner dans leur famille d'origine. C'est une production franco-sénégalaise. Il y a Kaoninka, qui est une société sénégalaise, et les films d'ici, qui est une société française. Donc là, le tournage est prévu au mois de janvier prochain, si tout se passe bien.
Voilà, et on attend la projection. Merci.
J'espère pouvoir vous montrer un jour le prochain.
Merci beaucoup. Je conclue pour la Bulac et je vous invite à vous rendre donc au Festival Ciné-Regard qui commence le 20 novembre. Nous concluons sur cette dernière présentation.
Oui. Juste pour vous apporter une information, puisque vous vous intéressez au cinéma africain, notre association organise samedi qui vient, une conférence sur le cinéma d'Afrique de l'Ouest, une conférence qui s'intitule 50 ans de cinéma en Afrique de l'Ouest, par Jean-Claude Rullier, qui est un universitaire spécialiste du cinéma africain. Et voilà, nous vous invitons à y assister si vous le pouvez. Ça se trouve à la bibliothèque municipale de Cachan à 16h samedi. Bibliothèque municipale de Cachan. Voilà. Au revoir et merci encore à Alassane et Michel Amargé pour cette belle séance.
Merci.